Si tu vas à Lyon, as-tu un? Il y a déjà une ligne de train. Elle coûte pas 30 milliards, elle grave tout le quart et elle détruit pas tout. Tchou, tchou! Si tu vas à Lyon, as-tu un? Il y a déjà une ligne de train. Elle coûte pas 30 milliards, elle grave tout le quart et elle détruit pas tout. Tchou, tchou!
13, 12.
Pam, tibum, tim, paradam, pam, pam. Paradam, pam, pam. Tibum, tim, paradam, pam, pam. Paradam, pam, pam.
Ici, on chante. On est en août 2024. La pluie nous laisse un peu tranquille et 350 personnes nous entourent. Nous, c'est la radio Cruet le Tunnel. La radio dont on voit le bout. Ou pas. C'est une radio qui chante et qui déchante. Qui va vous parler de la construction de la ligne TGV entre Lyon et Turin et des luttes qui l'entourent.
On est sous un chapiteau, dans un grand champ avec des noyers ombrageants, une tente avec de multiples tableaux de planigles d'organisation de tâches de vie collective, un groupe électrogène, une guirlande de presque 1 km de long et déjà une journée de transmission de chants.
Au programme aujourd'hui, une émission enregistrée en direct d'une ferme, ponctuée de chants qui sont au cœur de ce qui nous rassemble, comme la goguette que vous avez entendue en introduction de cette chronique. Cette émission est rediffusée sur les ondes de radio associative et vous propose des jeux, de la musique, des témoignages, des récits des luttes d'ici et des interventions en direct d'invités en trois temps.
Cruel le tunnel,
l'émission dont on voit le bout,
c'est maintenant.
Toum, timidoum, tim, timidoum.
Radio Cruel
Radio Cruel le tunnel.
Pam. L'émission dont on voit le bout.
Radio Cruel le tunnel.
Radio Cruel le tunnel.
Tout bon moment dans une vie commence par un grand quiz et se termine par une boum. Ce soir, ce sera des chiffres et quelques lettres. On laisse la compétition de côté et personne ne gagnera aucune avancée dans la file d'attente du repas. On est désolé, même si les bonnes réponses seront très nombreuses. Alors c'est donc un quiz avec des questions.
Et oui, et je vous propose tout d'abord une première question. Concentrez-vous bien car il y a beaucoup de chiffres et d'un certain calcul à faire. Attention. En 1993, il y avait 1 450 000 passages de camions cumulés dans le tunnel du Fréjus et du Mont-Blanc. Sachant qu'il y a 5 fois moins de trains de marchandises aujourd'hui qu'en 1993, combien y a-t-il de passages de camions dans ces mêmes tunnels aujourd'hui ?
C'est une question chiffrée. Alors, on a entendu un nombre, un chiffre. On va risquer le Larsen. 145 000 et 145 millions. On voit qu'on précise.
145 millions.
145 000, trois fois. Donc, c'est une quine.
Oh là là, c'est une grande erreur. Effectivement, il fallait répéter qu'il y a toujours autant de camions qui passent. Mais pour autant, il y a 5 fois moins de trains de marchandises aujourd'hui. Faites votre calcul. Attention, nous repartons pour une réponse, cette fois-ci sans chiffres, mais plutôt une petite estimative. Le transport ferroviaire de marchandises coûte-t-il plus ou moins cher que le transport routier ?
Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. C'est un moins cher.
C'est un moins cher, mais ce n'est que des bonnes réponses ici dans le public. Vous avez tout à fait raison. C'est moins cher. C'est moins cher. Et pour autant, un aller-retour en camion dans le tunnel du Fréjus ou du Mont-Blanc coûte 600 euros, ce qui est extrêmement cher.
C'est beaucoup plus qu'un RSA.
Attention, attention, nous proposons une avant-dernière question.
Oh non, déjà.
Attention, encore une question très chiffrée. Hein. Combien de kilomètres du futur tunnel ont-ils déjà été creusés ? 10, mais c'est incroyable, c'est une réponse exacte. Oh. Nous avons effectivement 10 km de tunnels de circulation qui ont déjà été creusés sur les 115 km prévus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que TELT, l'entreprise du chantier, joue avec les chiffres en parlant qu'il y a déjà 40 km de galeries creusées.
J'ai l'impression qu'il nous leurre. C'est des nuls, en effet. C'est des nuls.
Attention, attention, vous êtes prêts pour la dernière question ?
L'ultime.
Combien le tunnel transfrontalier drainera-t-il d'eau par an s'il est construit ? Une réponse chiffrée.
Vous pouvez faire une comparaison en méga bassine si vous voulez.
10 terrains de foot, 4 piscines olympiques.
La réponse est 60 à 125 millions de mètres cubes par an. Et ce qui est très inquiétant, c'est que ce sont les chiffres de ladite entreprise qui les annonce.
C'est vrai, ça fait 10 terrains de foot ? Plus. C'est peut-être encore flou pour vous et peut-être que ces chiffres sont abstraits. Mais grâce avec ce qui va suivre, tout va s'éclaircir. En tout cas, la ligne, le fil conducteur, c'est que c'est grand, c'est inutile et que ça fait peur.
Et on vous propose de sortir un petit peu de Cruet et on va se balader un petit peu dans toute la Savoie pendant cette émission. Et là, on va partir un peu plus loin en Maurienne, à Saint-Jean-de-Maurienne. On a tendu le micro à des passants et passantes de manière aléatoire au marché de Saint-Jean. Et on a pris la température de leur ressenti du Lyon-Turin.
Le Lyon-Turin, ça fait rêver, ça fait peur ou ça fait rien ?
Catastrophe.
Bah, je pense que c'est bien de relier les deux villes. Après, c'est des travaux qui vont perturber, mais je trouve ça bien.
J'ai pas le tracé en tête, donc je sais pas par où il passe. Et en termes de dégradation du patrimoine, voilà, je sais pas ce que ça va donner. Donc, j'ai du mal à me prononcer dessus, j'avoue. Je suis désolée.
Du Lyon-Turin ?
Du Lyon-Turin.
Ah, d'accord.
Non, ça me fait rêver. Non.
Ok.
Aller à Turin, non, non. C'est sympa.
Rêver, c'est peut-être un peu fort, mais c'est une évolution qui est plutôt positive. Ça permet de réguler mieux le trafic, j'imagine, et puis d'accélérer les temps de parcours.
Non, je pense que ça prépare l'avenir.
Moi, à titre personnel, Lyon-Turin, à proprement parler, ça ne me dérange pas. Par contre, ce qui m'embête, c'est pour les logements. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de me loger. J'ai toujours grandi ici. Et en fait, bah, à chaque fois qu'on cherche un appartement, ça écrit non, réservé Lyon-Turin. Les loyers augmentent de fou. Et moi, ça m'embête parce que j'ai grandi là et je ne peux pas prendre mon appart, quoi.
Alors moi, à titre personnel aussi, Lyon-Turin, bon, ça fait rêver, on va dire, au niveau des ambitions, des enjeux que ça pourrait apporter, pourquoi ça existe. Après, forcément, bon, est-ce que les choses sont faites de la bonne manière ? Est-ce que tout le monde est très bien consulté ? On ne sait pas vraiment. C'est un projet qui dure, c'est un projet qui est encore amené à durer beaucoup d'années. Et j'ai quand même un peu peur que ça transforme la vallée de manière irréversible. Ouais. Prêt à voir.
Écologiquement, c'est pas bon. Économiquement, c'est génial pour la vallée. Il y a beaucoup plus de personnes à Saint-Jean. Alors oui, il y a un problème au niveau du logement. Étant bailleur, ça m'arrange, puisque les loyers augmentent du coup. Mais il y a une qualité de vie qui tend à s'améliorer quand même à Saint-Jean, grâce au Lyon-Turin. Et donc on passe à une étape supérieure, on est une plus grande ville. Mais voilà, moi je suis pas contre.
Bon, ça peut être bien. Hein. Si on cherche minot, alors je vais pas critiquer, voilà.
Ça va détruire la vallée, ça va détruire la planète, et j'y travaille, donc ça me nourrit.
Ça fait rêver ?
Non.
Ça fait peur ? Ou
ça fait peur ?
Ça fait rien ?
Ça fait peur.
Ça risque de détruire beaucoup la montagne, j'imagine. Bon, je ne suis pas d'ici, je ne me rends pas forcément compte, mais c'est l'effet que ça me fait de loin, quoi. Donc ça doit être assez... pour les locaux, ça doit être assez oppressant, je pense. Ouais.
Ça fait les deux. Ça fait peur, ça fait rêver aussi. Oui.
Perso, ça fait rien. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Je sais pas.
Merci. Le Lyon-Turin, ça fait rêver, ça fait peur ou ça fait rien ?
Ah, moi ça me fait rien. On verra quand ce sera fini.
Cruel Tunnel, l'émission dont on voit le bout.
Je suis en direct avec la poule.
L'émission Cruel Tunnel, l'émission dont on voit le bout.
Et on a ici sur le plateau, donc on est de retour à Cruet, on a Daniel et Karine qui sont deux habitantes locaux qui sont particulièrement intéressés par la question du Lyon-Turin, qui vont pouvoir nous en dire un peu plus sur le contexte. Est-ce que Daniel, tu veux bien en quelques mots, dans les grandes lignes, nous donner un peu le tableau de qu'est-ce que c'est que ce projet, c'est quoi les grandes promesses, les grands mensonges?
D'abord, bravo pour le micro-trottoir que vous avez fait, parce qu'il n'y a pas un journaliste qui a jamais fait ça. Donc vous êtes les premiers à avoir fait ça, et on voit que finalement, où les gens ne connaissent pas de quoi on parle, et vraiment bravo pour ce travail. Avant de parler d'un projet, en fait, il faut parler de ce qui existe. Parce qu'un projet n'a d'intérêt que s'il répond à un besoin qui n'est pas satisfait par l'existant. Et donc, je vais d'abord vous parler de ce qui existe. Il existe une ligne ferroviaire entre Lyon et Turin, mais entre Paris et Turin. En fait, Turin est relié à la France par une ligne qui passe par Chambéry, Modane, Saint-Jean-de-Maurienne. Et sur cette voie, en 1998, donc avant les années 2000, il circulait plus de 100 trains par jour. 100 trains de fret, plus une trentaine de trains de voyageurs. Et aujourd'hui, il ne passe plus qu'une trentaine de trains. La différence entre les 130 trains en 98 et les 30 trains d'aujourd'hui, c'est qu'on a dépensé 1 milliard d'euros sur la voie existante. Et donc, nous, on n'est pas maximalistes. Hein. On leur dit... Ne faites pas mieux qu'avant d'avoir dépensé 1 milliard, mais faites au moins ce que vous faisiez avant d'avoir claqué 1 milliard d'argent public. Et donc aujourd'hui, avec les 100 trains de différence, on peut mettre environ 32 camions, 32 containers sur un train, multiplié par 100 trains qui ne circulent plus, ça en fait 3000 par jour. Vous pouvez sortir vos calculettes, hein, c'est assez facile. C'est niveau CE2, CM1, hein, le truc. Mais ils nous ont mis des polytechniciens, donc forcément, c'est plus compliqué. Donc 100 trains avec 30 remorques dessus, ça fait 3000 camions par jour en moins. Il y a 365 jours par an. Si on en enlève 65 pour les week-ends, on en garde 300. Il faut être social dans la vie. 300 par 3000, ça fait 900 000 poids lourds de moins. Et comme tout à l'heure, on l'a dit dans le quiz, il passe 1 450 000 poids lourds entre le Mont-Blanc et le Fréjus. Donc ça veut dire que les deux tiers des poids lourds peuvent être sortis de la route dès maintenant, tout de suite aujourd'hui. Non pas en faisant mieux que ce qu'on faisait avant d'avoir dépensé 1 milliard, mais en faisant pareil que ce que l'on faisait avant d'avoir dépensé 1 milliard. Je pense que c'est assez raisonnable pour le contribuable. Donc voilà pour le besoin, il n'y a pas besoin de ce projet.
Donc ça fait vraiment plein de chiffres, Daniel. Donc si je comprends bien, ce projet ne sert à rien, d'après toi. Mais alors pourquoi il est proposé?
C'est quoi alors, les promesses? Pourquoi il est proposé? Je répondrai comme la 69. En fait, le Lyon-Turin, c'est la 69 et l'EPR du ferroviaire. C'est-à-dire qu'on t'explique qu'il va y avoir une explosion du trafic de marchandises entre la France et l'Italie. Ils avaient prévu qu'il y aurait jusqu'à 3 millions de poids lourds par an en 2017. On est en 2024, ça tombe bien, on a pu faire le compte. Finalement, il n'y en avait qu'1 400 000, donc la moitié. En fait, toutes leurs prévisions ont été surévaluées, comme dans tous les projets d'ailleurs de trafic ferroviaire ou de trafic routier, et ils le savent parfaitement. Donc, si tu veux, c'est comme pour les méga-bassines, c'est comme pour Bure, c'est comme pour tous les autres projets inutiles et imposés. À chaque fois, on va faire des prévisions que l'on sait parfaitement fausses, et on les sait parfaitement fausses parce que dans ce projet, bizarrement, contrairement à Notre-Dame-des-Landes, en fait, on est... Pour Notre-Dame-des-Landes, dès le premier jour, la Direction générale de l'aviation civile était pour le projet jusqu'au dernier jour avant l'annonce d'Édouard Philippe, quand ils ont annulé. Dans ce projet, toute la haute fonction publique, tous les services de l'État, les ponts et chaussées, le Trésor, l'Inspection générale des finances, l'autorité environnementale, la Cour des comptes française, la Cour des comptes européenne, y compris le Conseil d'orientation des infrastructures, tout le monde a dit... Ce projet ne sert à rien. La ligne existante permet de répondre aux besoins. Et donc, par conséquent, ils ont créé un projet qui est un projet de politiciens locaux qui, d'ailleurs, arrive à mettre la pression sur tous les élus pour qu'ils soient pour, par un biais assez sympathique, c'est qu'ils leur disent « Si t'es pas pour, t'as pas la subvention ». pour ta crèche, etc. Vous voyez, c'est un système qui corrompt un peu la décision publique. Et donc, bien sûr, ils ont aussi trouvé des commissaires enquêteurs qui étaient intéressés à l'affaire. Et donc, on est dans un système qui est comme celui de la 69, d'ailleurs, parce que c'est un système de privatisation du réseau ferré national. Hein, c'est vraiment une privatisation, puisque à l'issue de la dépense de 90% par l'État français, ce sera un partenariat public-privé. C'est bien sûr la logique de l'accaparement de l'argent public, notamment par le BTP. C'est la logique politicienne, c'est-à-dire que c'est la logique de Carole Delga et consorts. Et c'est toujours la même logique de l'inutilité. Et nous disons que c'est l'EPR du ferroviaire parce qu'en fait, au début, ça a été vendu pour 3 milliards d'euros. On nous a expliqué que ça coûterait 3 milliards. Aujourd'hui, on en est à plus de 30 milliards. Vous voyez, c'est un peu comme l'EPR. Mais j'ai juste une chose à dire.
Est-ce que tu peux nous dire qui finance, du coup?
Qui finance le contribuable, hein, dans tous les projets routiers, autoroutiers, tous les projets de transport, il n'y a que deux payeurs. Le contribuable et l'usager.
Français.
En l'occurrence, l'usager ne pourra pas payer. Alors pourquoi est-ce que c'est l'EPR du ferroviaire? D'une part, c'est une explosion des coûts. Bien sûr, c'est un danger public pour l'environnement et pour la démocratie, y compris. Mais c'est surtout, et c'est pour ça qu'on le compare à l'EPR du ferroviaire, c'est que l'EPR, ils l'ont mené au bout. C'est arrivé en retard. Ils n'ont pas eu l'argent pour le faire. Ça a coûté beaucoup plus d'argent et c'est toujours pas en route. Mais ça n'empêche qu'ils ont tout dévasté et qu'ils ont pris les risques. Et donc, il est de notre responsabilité individuelle de tout faire pour arrêter ce projet, même s'ils ont creusé une dizaine de kilomètres. On peut toujours l'arrêter, parce que quand on fait une connerie, on n'est pas obligé de la faire jusqu'au bout.
Merci, Daniel, pour ce petit tableau général.
Radio Cruelle.
Radio Cruelle, le tunnel.
On vous propose d'écouter la voix d'une habitante qui est aussi une ancienne élue et aujourd'hui militante contre le Lyon-Turin.
Je m'appelle Liliane, j'habite en Basse-Maurienne. J'ai habité pendant 40 ans en Haute-Maurienne, dans le secteur de Modane. Au début, j'ai cru comme tout le monde, pendant des années. Pendant des années, j'ai cru parce que je me suis dit, au fond, on a tous cru, tous dans la vallée. On s'est dit, ah, c'est formidable, on n'aura plus la pollution des camions, on n'aura plus la nuisance sonore. Puis non. Je pense que à décharge pour tout le monde, c'est qu'à ce moment-là, personne n'a pu imaginer les dégâts que ça pouvait représenter. Les hydrologues, ils ont dit, vous risquez de ne plus avoir de l'eau. Mais dans la tête d'un Morianais, avec toute l'eau qui coule des deux côtés de la montagne, ne plus avoir d'eau, ça ne peut pas rentrer dans la tête. C'est inimaginable. Tu vois? C'est pas possible. Tu te dis ça, c'est pas possible. Tu as vu toute l'eau qui coule, ça a toujours coulé l'eau. Elle va continuer. Mais non. Non, l'eau, elle s'en va. Elle s'en va définitivement. Et il faut 200 millions d'années pour refaire une réserve d'eau potable. Moi, j'étais, on peut dire entre guillemets, une jeune élue. Moi, j'ai fait qu'un mandat. Donc, je ne connaissais pas et tout. Et je leur disais, mais ce n'est pas possible. On ne va pas leur laisser faire. Il y a des choses qui ne vont pas. Non, mais t'inquiète, ils savent ce qu'ils font. T'inquiète, ils savent ce qu'ils font. Tu vois, personne ne remettait en question parce que personne n'était préparé à se dire que ce n'était peut-être pas vrai ce qu'ils disaient. Les maires, on allait même depuis quand j'étais élue. Donc, moi, j'étais élue en 2001, il me semble, le mandat 2001-2008. Et les maires, c'est toujours les mêmes. Ils connaissent le dossier sur le bout des doigts. Ils savent tout ce qu'il y a dedans. Mais la société qui a l'exploitation de la construction du tunnel, qui est Telt, c'est une pieuvre. Ça va faire 25 ans, hein, qu'ils œuvrent sur le terrain. Qu'ils œuvrent avec des bonnes manières, des gentilles façons. On a payé les voyages aux maires pour qu'ils aillent voir ailleurs comment c'était bien. Le problème qui se pose, c'est qu'actuellement, Telt, comme c'est rentré dans le cadre des grands chantiers, quand c'est les grands chantiers qui sont sur un territoire, c'est eux qui ont la mainmise sur toutes les subventions qui seraient venues de la part de l'État ou de la région ou de l'Europe. Ils seraient venus, en temps normal, normalement. Sauf que quand c'est les grands chantiers, c'est celui qui s'occupe de la construction, c'est par lui que le dossier passe. C'est des dédommagements qui sont faits au territoire. Mais ils dédommagent avec notre argent. L'argent qu'on aurait eu en temps normal pour pouvoir agrandir l'école, pour pouvoir refaire le toit du musée, pour pouvoir faire une voie verte, c'est de l'argent qui serait venu de toutes les façons. Sur le canton de... la Comcom de Saint-Jean-de-Maurienne, chaque année, il y a une réunion qui est faite entre tout ce qui est monde associatif, artistique. Ensuite, ils font leur demande auprès de leur mairie des aides et des subventions. Et depuis l'année dernière, qui c'est qui vient à ce lieu-là ? Eh bien, un représentant de Chetelt. Et moi, je dis, quand on commence à museler le monde artistique, c'est la fin. Ça, c'est mauvais. C'est de la dictature. Ça veut dire que si quelqu'un dit quelque chose contre Telt, eh bien, il s'assoit sur sa subvention pour faire fonctionner son association, quoi. Et c'est grave. Voilà. Lyon-Turin, qu'est-ce qu'il fait actuellement ? Sur Modane et sur Saint-Jean, ils ont passé des accords avec des personnes qui avaient des appartements qui n'étaient pas entretenus, qui voulaient rénover. Ils ont eu des aides en argent de la part de la région Rhône-Alpes pour réparer leur bien immobilier. Et ils ont un accord avec Telt sur 10 ans. Ça veut dire que pendant 10 ans, c'est Telt qui a la main sur leur appartement. Et maintenant, la population ne se renouvelle plus. Par exemple, sur Modane, c'est quelque chose qui est frappant. Il n'y a pas un appartement ou une maison qui se loue. La Maurienne elle a du minerai. De ce minerai est extrait l'aluminium. Et pour faire de l'aluminium, il faut de l'électricité. Et à l'époque, on ne savait pas transporter l'électricité. Donc, on a construit tout le long fond de la vallée des usines. Donc, ça a été déjà la première chose au niveau des constructions. Il faut savoir que les gens qui travaillaient dans ces usines-là, c'était les paysans qui vivaient au sommet de la montagne, qui marchaient 1h30 ou 2h le matin pour aller à leur travail, qui remontaient le soir. Parce qu'il n'y avait que ça qui leur faisait une rentrée d'argent. Parce qu'ils n'avaient pas de revenus. Ils vivaient avec leur lopin de terre. Beaucoup de Morianais se sont déplacés. Il y en a qui sont partis en Argentine, en Amérique du Sud. Beaucoup de familles sont parties parce que c'était des familles nombreuses et ils n'avaient pas de quoi vivre ni subvenir à leur famille. Donc un chantier qui arrive ou un travail qui arrive, c'est du pain béni. Ils rentraient des sous. C'est la première fois qu'ils avaient de l'argent dans leur poche. Ça fait partie de leur vie et de leur nature. Et c'est tous des chantiers qui duraient X années. Tu vois, quand ils ont fait les barrages, ça a duré pendant certains barrages pendant 10 ans, tu vois, la construction. Donc, on construit. C'est quelque part ancré. Vous voyez, c'est dans les gènes. Ça détruit l'habitat naturel. Au début, tout le monde était heureux parce que de vendre un lopin de terre, ça leur amenait beaucoup de sous. Sauf qu'actuellement, leurs enfants qui veulent s'installer, ils n'ont plus un mètre carré de terre et ils ne peuvent plus se payer le logement dans la ville ou dans la station dans laquelle... C'est souvent les villages ici, chez nous, en Maurienne. C'est des villages qui ont été agrandis et qui sont devenus des stations. Leurs enfants, actuellement, ne peuvent plus se loger.
Passion Telt, passion tunnel.
Cruel tunnel, cruel tunnel, cruel tunnel, cruel tunnel, cruel tunnel. Cruel tunnel, cruel tunnel, cruel tunnel, cruel tunnel.
Cruel tunnel, l'émission qu'on voit le bout.
Karine, est-ce que tu veux réagir au témoignage de Liliane ? Je te voyais approuver. Est-ce que ça résonne pour toi ce qu'elle raconte sur Telt ? Et peut-être, est-ce que tu veux bien nous redire un petit peu qui est Telt, qu'on situe exactement ce que c'est que cette structure ?
Alors je trouve qu'elle a parfaitement couvert toute la mainmise de Telt sur la vallée et aux endroits où elle s'installe. Et il y a vraiment le ressenti de la population, le ressenti de ce qu'on peut avoir, nous, quand on voit ces chantiers s'installer. TELT, c'est le tunnel euralpin Lyon-Turin. Et en fait, c'est une entreprise qui s'occupe de coordonner toutes les entreprises de BTP qui fabriquent le tunnel. Voilà. Et c'est une entreprise qui s'est installée sur les 30 dernières années dans la vie locale, dans les municipalités, les petites, les grandes. Comme l'a dit Liliane, on les voit dans les fêtes de village, on les voit dans les réunions publiques, on les voit quand le préfet parle, le directeur de TELT parle aussi. Et voilà, ils ont réussi à infuser comme ça dans la vie locale.
Et je voulais aussi qu'on revienne sur où est-ce qu'on en est exactement des travaux par rapport à l'avancement de ce qui est prévu. Concrètement, on en est où ?
Alors, on n'est pas très loin. Il y a des descendries qui sont des petits tunnels d'observation qui servent ensuite à amener du matériel pour la création du tunnel. Le tunnel de base en lui-même, il n'y a que 10 km, comme vous avez dit tout à l'heure, que 10 km creusés au gabarit. La com de TELT, pour dire c'est presque fini, on a déjà plus de 30 km creusés et ainsi de suite, c'est qu'ils ajoutent à ces 10 km toutes les petites descendries, toutes les cavités d'observation pour essayer d'augmenter le chiffre.
Du coup, est-ce qu'on peut vraiment parler de stratégie de fait accompli dans le sens où ça donne l'impression que c'est trop tard, les travaux sont déjà trop avancés, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas ?
C'est pas du tout le cas, et c'est clairement l'argument qu'on entend le plus souvent quand on parle de TELT, c'est de toute façon, c'est presque fini, alors que c'est loin d'être fini et qu'on peut tout à fait changer la donne et arrêter ça.
Et est-ce que tu arriveras à nous dire un peu ce qu'on peut imaginer comme impact environnemental à venir ? Qu'est-ce qui peut être encore évité si le projet s'arrêtait, par exemple ?
Je crois que le plus gros point, c'est le point de l'eau. Parce que quand on creuse sous la montagne, on trouve de l'eau. Et quand on veut avoir un tunnel sécurisé, on doit drainer l'eau. Drainer l'eau, ça veut dire drainer des millions de mètres cubes d'eau par an, comme on a dit tout à l'heure. 125 millions de mètres cubes d'eau, c'est la consommation d'une ville d'un million d'habitants sur une année. C'est énorme. Mais drainer l'eau, ça veut dire plus d'eau pour la faune, pour la flore. Ça veut dire des forêts qui disparaissent. Et on sait que la montagne, elle tient aussi par ses forêts. Et que s'il n'y a plus d'arbres, le sol descend. On a vu ça au moment de l'industrialisation, où on a coupé toutes les forêts qu'il y avait, et on a commencé à avoir des glissements de terrain, vraiment des grosses catastrophes qui ont poussé à replanter des forêts. Et là, si on assèche les massifs montagneux, on fait disparaître les forêts.
Est-ce que tu veux nous dire, pour toi, en résumé, les grandes promesses et les grands mensonges de TELT ?
TELT, si on les écoute, ils nous vendent le projet comme c'est le projet du siècle. Après, c'est tous les grands projets, c'est toujours le projet du siècle. Hein. Mais c'est le projet du siècle. C'est désenclaver la région. Alors, je ne vois pas comment ça peut se passer, puisqu'en fait, on essaye de raccourcir la route entre Lyon et Turin. C'est un projet écologique, parce que le train, c'est écologique. Voilà, donc ça, c'est les promesses. La réalité, c'est une dette carbone qui ne sera probablement jamais remboursée, parce que trop énorme. C'est des forêts, c'est des sources asséchées, c'est des forêts mortes. C'est des conditions de travail épouvantables pour les gens qui travaillent dans le chantier. C'est 3 morts au travail en moins de 8 mois, enfin moins d'un an, quoi, en 8 mois, sur les 8 derniers mois. C'est la mort économique des villages et des petites villes de Haute-Maurienne. À partir de Saint-Jean-de-Maurienne, en fait, le ferroviaire amène vraiment une activité dans ces villes-là. Modane, c'est la dernière ville qui est desservie par une gare avant l'Italie. C'est la gare internationale qu'on a déjà, qui est à Modane, et qui est fermée actuellement.
Pourquoi elle est fermée ?
Elle est fermée parce qu'il y a eu l'année dernière un éboulement sur la voie existante, et que cet éboulement qui aurait dû être... la voie aurait dû être déblayée très rapidement, et on a l'impression qu'il y a un petit peu de mauvaise volonté.
Pour peut-être donner l'impression que l'existant ne sert à rien et qu'il faudrait absolument
qu'il est vétuste et qu'il est dangereux et qu'il ne sert à rien, alors qu'il marche très bien quand on le déblaye.
Et c'est quoi les délais qui sont annoncés et à quoi on peut s'attendre comme allongement de délai par rapport à ce qui se passe?
Alors c'est 2032, je crois, la mise en... 2033 ? 2033 maintenant, ça augmente régulièrement quand même. Donc 2033, en sachant qu'on n'a pas rencontré encore tous les problèmes qui vont se poser, on n'a pas résolu tous les problèmes qui se sont déjà posés, et que chaque problème qui se pose, c'est 8 mois, 1 an, 2 ans de délai. Donc potentiellement jamais fini en fait.
C'est le délai qui était annoncé dès le départ, ou il y a déjà eu un rallongement des délais ?
Ah non, ça se rallonge régulièrement, tous les ans.
Merci beaucoup.
Ben, merci beaucoup. Et maintenant, on va écouter le témoignage d'un ancien employé de Telt et habitant de la Haute-Maurienne qui a souhaité rester anonyme.
Je suis un habitant de la Maurienne. Et puis, j'ai travaillé dans les travaux souterrains, et notamment sur le projet du Lyon-Turin. J'ai découvert le milieu des travaux souterrains assez jeune, puisque je sortais de mes études. J'ai découvert un milieu passionnant, parce que faire un tunnel techniquement c'est ultra compliqué. Malgré tous les sondages, toutes les reconnaissances qu'on peut faire, il y a une part d'incertitude, et quand on va creuser un tunnel, surtout des tunnels comme celui-ci à grande profondeur, hein, on peut rencontrer des géologies compliquées, on peut rencontrer beaucoup d'eau. Donc en fait c'était vraiment passionnant. Et sur les chantiers de travaux souterrains, si vous voulez, il y a une espèce de camaraderie dans les équipes. En fait, c'est des mineurs qui creusent. Il y a ce truc-là. Et moi, je trouvais ça hyper prenant, hyper passionnant. Après, le problème, c'est quand on regarde tous les impacts d'un chantier, parce qu'il a beau essayer d'être le plus vertueux possible, il y a des impacts colossaux sur... on le voit ici, sur les paysages, sur les terres agricoles, sur l'eau, sur la ressource en eau. Et en fait, c'est avec ça que j'arrivais plus à le faire, parce que je me suis... Alors, si encore le projet il paraissait hyper important et indispensable, sauf qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il est plus du tout d'actualité. Et en fait, voilà, c'est pour ça que j'arrivais plus à composer avec ce truc là quoi. Alors là-bas au fond, on voit le fort du Sapet, qui est un fort qui a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis devant, au premier plan, qu'est-ce qu'on voit ? Une zone de dépôt de matériaux. Alors moi, j'ai connu le paysage avant, donc avant c'était une prairie agricole. Et aujourd'hui, ça sert à stocker des cailloux. On est à peu près à 10% du stockage définitif. Alors c'est des cailloux qui sortent du chantier du Lyon-Turin, hein, par la descendrie de Villaroudin-Bourget. Et en fait, donc ça, c'est des matériaux qui sont sulfatés, c'est-à-dire que dedans, il y a du gypse. Et en fait, il faut, pour stocker ça, il faut un terrain qui contient déjà du gypse. Hein, sinon, on a les sulfates par lessivage avec l'eau qui risquent de partir dans les terrains. Et ici, il se trouve que c'est une zone de gypse. Donc c'est pour ça qu'on le stocke là. C'est des discussions qu'on a. Après, il faut avouer, hein, la Maurienne, c'est pas un territoire très dynamique en termes d'emploi. Alors, aujourd'hui, c'est moins vrai. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de boulot, du fait du Lyon-Turin notamment. Donc, en fait, il y a une manne financière qui est là, qui est une opportunité pour plein de gens. Donc, forcément, on a du mal à prendre du recul sur le truc, parce qu'on se rend compte que sans ça, on aurait du mal à vivre, en fait. On aurait du mal à trouver un travail. Enfin, moi, ça a été mon cas pendant un moment. Je me suis rendu compte de ce qu'on faisait assez vite, mais je me disais, bon, c'est un tunnel, il faut le faire. Si c'est pas moi, de toute façon, ce sera un autre. Donc voilà, et j'arrivais à travailler comme ça, quoi. Bah, je pense que la promesse, enfin la grande promesse, c'est le mensonge, en fait. C'est enlever les camions de la route et les faire passer sur le train. Sauf que, oui, peut-être qu'un jour, ce tunnel, il sera en fonction. Sauf que, en fait, le nombre de camions aujourd'hui qui transitent, il n'est pas suffisant pour justifier un tel projet. Et le pire, c'est qu'il y a déjà une infrastructure existante. Et avec 20, 30 fois moins d'argent, on aurait pu l'améliorer et faire passer le fret qui passe aujourd'hui par le routier. Localement, c'est assez compliqué parce que, en fait, c'est très dur de dire « je suis contre ce projet ». Parce qu'en fait, il faut imaginer, hein, le projet, il est ici depuis... il est dans les tuyaux depuis 40 ans, il a démarré ici il y a plus de 25 ans. Donc en fait, avec les différentes décentries, hein, qui ont commencé dans les années 2000, parce que ça fait vivre des localités comme Modane, comme Saint-Jean, voilà. Donc en fait, c'est hyper compliqué de dire « moi, je suis contre », parce que forcément, derrière, on est estampillé, on est tagué écolo ou radical, je sais pas trop quoi, mais forcément, c'est hyper compliqué de le dire. Hyper compliqué. En fait, je prends pas de risque, mais j'ai clairement pas l'impression de pouvoir parler librement, quoi. En fait. Je m'en rends compte, hein. Même là, on fait l'exercice, ça me stresse, quoi. Parce que... Alors qu'aujourd'hui, je déplans plus de ça, et finalement, je risque rien, je pense, je suppose, je sais pas. Mais en fait, non, c'est hyper compliqué. Ouais.